Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne et la conscience d'étudier sa parole. C'est une grâce d'avoir cette conscience-là d'étudier la parole de Dieu. Et comme on avait dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait la parole aussi parce qu'on peut toujours prendre des routes qui sont mauvaises, pensant que puisque on se sent bien en Christ, que c'est une bonne route. J'ai une fois cité l'exemple du réveil en Chine, où les gens étaient en carence de parole de Dieu, de Bible. Donc du coup, il n'y avait pas la parole, mais il y avait le minimum pour amener les gens à Christ. Mais après, savoir c'est quoi vraiment le christianisme, c'est quoi la prière, tout ça, il n'y avait pas autant que cela. Et ce qui fait que ça a produit plusieurs déviations qui se sont estompées avec l'arrivée des Bibles dans les milieux chrétiens, notamment une personne qui était tombée une fois dans un puits, la tête, la première. Cette personne est restée dans cette position pendant 7 minutes environ, après avoir crié à Dieu pour la délivrance. La délivrance est venue 7 minutes après, donc ça a été vraiment un miracle que dans ce coin perdu, il vienne à passer quelqu'un pour le sauver. Et du coup, ils en ont conclu que Dieu nous écoute bien quand nous avons la tête en bas et puis les jambes en l'air. Voilà. Et donc, c'est devenu une méthode. Et il y en a même qui sont devenus ils se sont surnommés des pleureurs. Donc, ils estimaient que pour que Dieu nous écoute, il faut faire 3 jours en pleurant. Et c'est ainsi que Dieu peut écouter nos prières. Donc, il y avait toutes sortes de courants qui avaient germé de tout ça. Malgré la puissance du Saint-Esprit, comment on sait qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit? Les gens se convertissaient. Les gens s'engageaient, les gens acceptaient la souffrance et demeuraient en Christ. Il y avait une force qui les maintenait, il y a une force qui les conduit, qui les fortifiait, mais il y avait des erreurs qui se propageaient aussi. Ce n'est que quand il y a eu la parole, les Bibles se sont répandues, que ces déviations ont commencé à disparaître. Donc c'est important qu'on ait la parole, parce que l'erreur qu'on commet souvent, c'est de penser que puisque nos affaires marchent, Dieu est avec nous, donc on est dans la droiture concernant la vérité. C'est pas forcément vrai. Donc on peut avancer dans des choses, nos affaires peuvent fonctionner en Christ, tout en étant dans des mauvaises conceptions bibliques. Bon, la grâce de Dieu, personne ne maîtrise ces choses-là. Donc Dieu peut aider malgré le fait que, bon, on est dans l'erreur. On a vu ça dans 2 Rois, chapitre 22, à l'époque de Josias. Ils avaient le roi, ils avaient les prophètes, ils avaient les sacrificateurs. Mais le jour où ils ont lu les Écritures, ils ont déchiré les vêtements. Ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Pourtant, ça fonctionnait. Voilà, c'est important de lire la parole. L'étude de la Bible est très importante. Si nous voulons maintenir le réveil, si nous voulons maintenir une croissance saine, il faut revenir à la lecture de la parole, à l'étude de la Bible. Et donc, on avait fini le livre d'Esdras, donc, qui s'est terminé par le nettoyage, donc au milieu des sacrificateurs et au milieu du peuple de Dieu, concernant qui était vrai juif ou pas, concernant qui était de la lignée d'Aaron ou pas. Ils ont fait un nettoyage, et puis concernant tous ceux qui se sont mariés avec les non-juifs, ceux qui créaient un désordre, alors que le peuple d'Israël devait être un peuple mis à part saint. C'est de sa sainteté que dépendait aussi la bénédiction des nations. Voilà, donc plus nous, les enfants de Dieu, nous sommes saints, plus nous pouvons être une bénédiction pour toutes les nations. Ça s'applique aussi à nous. Voilà. Aujourd'hui, on peut trouver des chrétiens, entre guillemets, prospères dans le sens du nombre, dans le sens financier, dans le sens de la production aussi, hein, production musicale, production en séminaire, production en chaîne de télé, tout ça. On peut trouver tout cela sans que ce soit des gens qui soient une bénédiction pour la ville ou bien pour le pays. C'est juste une entreprise qui marche en elle-même, mais ça n'est pas un canal utilisé par Dieu pour répandre sa sainteté, répandre la bonne nouvelle qui transforme vraiment l'être humain dans une ville ou dans un pays. Ce qui compte, c'est la vérité. C'est ce qu'Esdras fait. Donc, ils se sont séparés des femmes étrangères et de leurs enfants pour que la nation soit sainte, afin qu'elle soit une vraie bénédiction spirituelle pour le monde. Donc, nous sommes appelés aussi à ça, dans le domaine musical, à ne pas mélanger avec les choses du monde pour prospérer humainement et décliner spirituellement, de sorte qu'on n'ait plus une bénédiction pour les gens dans le sens spirituel, dans le sens où notre musique n'amène plus à la repentance, mais amène à la fête, comme la musique du monde. C'est vrai que ces orchestres-là réussissent, ils ont du monde, mais ils ne changent pas les gens, parce qu'il y a eu mélange. Donc nous devons être attentifs à rester vraiment saints, c'est-à-dire comme Dieu, afin que nous soyons une vraie bénédiction. C'est ce qui s'est passé avec Esdras. Là, maintenant, nous allons parler de la troisième vague. Première vague de réveil, c'était avec Zorobabel et Josué, le sacrificateur. Deuxième vague, avec le prêtre Esdras. Troisième vague, donc le prêtre Esdras qui vient donc confirmer la loi de Dieu dans le temple de Dieu construit par Zorobabel et Josué. Et avec les prophéties, on ne peut pas les oublier, ces gens-là, avec grâce aux prophéties de Zacharie et d'Agée. Voilà, ce sont ces deux prophètes-là qui se sont levés au moment où ils avaient laissé tomber la reconstruction du temple. Ils se sont levés et ils ont réveillé tout le monde pour reconstruire le temple. Et quand tout ça est fini, Esdras vient avec une seconde vague, mettre de l'ordre, remettre en selle le culte de l'Éternel. Vous savez qu'Esdras avait deux rôles. Il était à la fois sacrificateur et docteur et scribe. Donc les deux rôles. Donc c'est quelqu'un, on nous dit qu'il était versé dans la parole de Dieu, tellement versé dans la parole de Dieu que la bonne main de Dieu, donc Dieu était toujours avec lui. Voilà, donc quand on dit Esdras, on doit penser aux Écritures. Versé dans la parole de Dieu, versé à ramener le peuple de Dieu dans la droiture. Ça, c'est Esdras. Maintenant, nous sommes dans la troisième vague de réveil avec Néhémie qui était à Suse, la capitale. Donc, nous commençons le livre de Néhémie. L'histoire va nous montrer qui il était, voilà, parce que tout est dit. Voilà, Néhémie, et puis nous allons commenter après. Chapitre 1er, livre de Néhémie.
Chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisléou, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas, ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi.
Voilà, j'étais alors échanson du roi. Donc on apprend qui était Néhémie. C'était un juif échanson du roi Artaxerxès. Voilà, donc malgré le fait qu'il était échanson du roi, donc la personne qui verse du vin au roi, donc on nous le dit, mais il ne s'est pas préoccupé que de sa vie. Parce que quand on dit la personne qui verse du vin, attention, ce n'est pas le serveur qu'on retrouve dans les restaurants, hein. C'est-à-dire que c'est le chef de du département boisson. C'est ça, donc c'est pas dire que juste il vient, non, c'est pas n'importe qui peut servir le roi. Donc c'est en même temps le chef de tout le département. Donc c'est un grand homme. Donc un échanson du roi, c'est un grand intendant du roi. Et quelqu'un comme ça, bien-aimé, avait-il besoin de tomber dans l'abattement, dans la tristesse, juste puisque les murailles de Jérusalem étaient écroulées? Il avait une belle vie. Parce que ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi qui domine l'époque. Toi, tu es son échanson, tu as une belle vie. Bien-aimé, Néhémie nous parle. Parce que beaucoup de gens pensent que l'œuvre de Dieu, c'est que pour les pasteurs. Donc ceux qui ont un titre, au fait, quoi. C'est pour les diacres, c'est pour les anciens. Ceux qui ont un titre, c'est à eux. Mais là, nous sommes en face de quelqu'un qui n'a pas de titre religieux. C'est un riche fonctionnaire dans un royaume, dans un grand royaume. Cet homme devait avoir une belle maison. Avec des biens et chanson du roi. Mais il tombe, il nous est dit, au verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Il est abattu, pourquoi? Parce qu'on lui a dit, ceux qui sont restés, verset 3, de la captivité, sont là dans la province, au comble du malheur et de la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Nous avions dit dans les séances précédentes concernant Chronique et Esdras, nous avons dit que pour un juif, la présence de Dieu sur terre, c'était Jérusalem, le temple. C'était ça. Et donc, quand Jérusalem est en mauvais état, c'est comme si il y a un problème avec la relation divine. On a même un passage célèbre, Ésaïe 62, où Dieu dit, j'ai placé des gardes pour crier à toi jour et nuit. Donc les gens crient à Dieu jour et nuit pour qu'il rétablisse Jérusalem dans sa gloire. Donc comprenez la place centrale de la relation entre Dieu et son peuple, c'était Jérusalem et le temple. Esdras a trouvé le temple fait. Maintenant, il y avait le problème de Jérusalem, la ville, les murailles écroulées. Donc, ça montrait pas la gloire de Dieu. Donc, dans Ésaïe 48 aussi, on parle de ça. Donc, dans le psaume 48, pardon, la ville du grand roi, Jérusalem, la ville du grand roi. La joie de toute la terre, c'est extraordinaire. J'aime aussi ce passage. On peut lire peut-être ça, psaume 48. Psaume 48, nous, il y a un frère qui nous l'a chanté en anglais. The joy of the whole world. La joie de toute la terre, c'est Jérusalem. Voilà, donc comprenez la place de Jérusalem dans la pensée spirituelle juive. Nous lisons donc psaume 48.
Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur. Ils ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours.
Amen, c'est ça, on s'arrête là. Dieu la fera subsister à toujours, dans la ville de l'Éternel, la ville du grand roi. C'est ça, Jérusalem, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. C'est ça, un symbole très, très important, Jérusalem. Et ça ne finit pas que dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que dans Apocalypse, là où nous vivrons est appelé la nouvelle Jérusalem. Donc c'est pour dire quelle place ça occupe dans la relation entre Dieu et les hommes, Jérusalem. Donc ça a une grande place. Et Néhémie est abattu parce qu'il est intéressé par Dieu. Et je nous avais dit qu'il fallait que nous aussi, on regarde aux gens comme Néhémie et Esdras pour regarder à notre état, à nous, de l'Église actuelle, pour dire, Seigneur, notre Jérusalem, c'est les actes des apôtres. Pourquoi nous en sommes si loin? Ça doit nous abattre de la même manière que ça a amené l'abattement chez Néhémie qui est dans la désolation. C'est écrit, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Seigneur, le Dieu des cieux, et je dis. Voilà, plusieurs jours dans la désolation, abattu parce que c'est en lien avec Dieu. Et nous aussi, on peut être dans la désolation. Pour plusieurs raisons, bien-aimés. Souvenons-nous que le Seigneur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous pouvons être dans la désolation parce que ce n'est pas ce que nous voyons. Nous ne voyons pas le christianisme bouleverser ce monde. Il y a quelques poches de bouleversement, comme en Iran, comme en Chine. Mais à part ces trois ou cinq poches de bouleversement, le reste est occupé par un christianisme mondain. Donc ça doit nous bouleverser. Ça doit nous bouleverser de voir que à la télé, on ne parle surtout pas de Dieu. On n'en parle pas. D'une manière, surtout chez nous en France. Dieu est absent de la radio et de la télé. Ça doit nous bouleverser, ça doit nous gêner, ça doit nous mettre dans un état de désolation pour dire, Seigneur, après tout, c'est toi qui as fait les cieux et la terre, c'est toi qui as créé les humains. Pourquoi ça? Donc, conséquence, puisque Dieu, lui, ne fait jamais d'erreur. Il y a une erreur chez nous. Voilà la prière de Néhémie. Néhémie, qui, quand on lit, semble correct, il fait la même chose qu'Esdras. Il fait la même chose que Daniel. Il se repent pour le péché de tout le peuple en se mettant dedans. Bien-aimé, ça, on ne le dira pas assez, c'est que la repentance, c'est capital. C'est capital. Même si, comme Paul dit, toi-même, tu n'as rien à te reprocher. Sache que Dieu, lui, a des choses à te reprocher. Voilà. Donc, la repentance, c'est capital. Parce que comme Dieu ne fait pas d'erreur, si on se retrouve dans une configuration où l'action de Dieu a diminué, la faute, c'est à nous. C'est ce que Daniel dit dans Daniel 9. La faute, c'est à nous. C'est pas à toi. Toi, tu peux pas faire d'erreur. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire la faute, c'est à nous. Vous allez me dire, mais quelle faute? Il y en a beaucoup. Mais à nous de chercher, il y a beaucoup d'exemples. Donc comme je disais par exemple là, mélange de la musique mondaine et de la musique au milieu des enfants de Dieu. Il y a plusieurs erreurs où on a fait des pasteurs, des dieux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui font que Dieu se dit, si je déverse ma gloire, ça ira chez les humains. Et il freine. Il se dit, aujourd'hui, si je déverse ma gloire, celui-là, c'est un diacre. Mais dès que je vais déverser ma gloire sur sa vie, il va se transformer en super apôtre et prétendre que c'est lui le Messie. Donc, et le Seigneur retient. Il ne déploie pas sa gloire à cause de problèmes du fruit de l'esprit. Donc tout ça, tout ce que nous voyons, l'absence entre guillemets, hein, il est toujours là, hein, mais l'absence apparente de Dieu montre que nous avons des problèmes. Donc il faut qu'on regarde à nous-mêmes. Bien-aimé, quand tu vis une situation difficile, ne regarde pas aux autres, regarde à toi-même toujours. Regarde qu'est-ce qu'il y a à changer. Voilà. Donc là, Néhémie regarde à lui-même, en quelque sorte à son peuple, et dit, mais non, on s'est mal comporté. Mais Seigneur, tu avais promis que si nous revenons à toi, on s'humilie, tu vas nous pardonner et tu vas nous rétablir. Voilà comment la prière finit toujours. Alors Seigneur, rétablis-nous, ouvre-moi des portes auprès du roi pour qu'il m'écoute. Nous voyons une complémentarité entre Néhémie et Esdras. Esdras insiste sur le retour à la parole de Dieu et Néhémie insiste sur la prière. Ramenez Dieu par la prière. Donc il faut toujours les deux. Il est écrit, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis. Donc il confesse les péchés. Bien-aimés, cette première partie, nous pouvons l'intituler « La prise de conscience ». Donc, à un moment donné, un vrai chrétien doit prendre conscience que l'état dans lequel est l'Église, l'état dans lequel est le corps du Christ, n'est pas celui des actes des apôtres. Parce que faut pas qu'on parle d'un état supposé comme ça, fictif. Non, c'est un état qu'on peut vérifier dans les actes des apôtres. Donc, il y a un problème. Les promesses du Seigneur ne s'accomplissent pas devant nos yeux. Donc, un chrétien, ça ne demande pas d'être un pasteur. Néhémie n'était pas un pasteur. La prise de conscience pour l'œuvre de Dieu, ça n'a rien à voir avec les titres. Ça a à voir avec une relation réelle avec Dieu. Malheureusement, une de nos tares de notre époque, c'est que beaucoup pensent que, peut-être que c'était aussi dans les anciennes époques, mais beaucoup pensent que la relation avec Dieu, ce sont ceux qui ont des titres qui doivent l'avoir. Nous, on vient là assister comme des clients ou contribuer un tout petit peu. Non. Néhémie n'était que chanson du roi. Il était loin de Jérusalem, mais il a pris à cœur la chose parce qu'il s'est dit, moi, je peux être reçu par qui? Par le roi. Peut-être que toi, tu peux chanter bien. Donc, quand tu vois l'église du Seigneur en déconfiture, tu dis, mais moi, je vais donner ma voix au Seigneur. Peut-être que toi, tu peux bien filmer. Quand tu vois que c'est les chrétiens mondains qui ont pignon sur rue en matière audiovisuelle, tu dis, non, nous aussi, on va organiser un service audiovisuel qui tienne la route, mais pour annoncer la vérité. Donc, chacun de nous peut entrer dans la prise de conscience de Néhémie pour dire, non, ce qu'on voit là, c'est pas ça. Moi, je mettrai du mien pour que la vérité remonte à nouveau. Mais moi, je peux prier. Quelqu'un peut dire aussi, moi, je peux jeûner. Je ne sais peut-être pas prêcher. Je ne sais pas chanter. Mais je suis en tristesse. Je veux me mettre en prière. Je veux m'isoler pour prier. Jusqu'à ce que Dieu rétablisse Jérusalem dans sa gloire. Est-ce que ça c'est difficile, bien-aimé? Non. Chacun peut faire quelque chose. Nous avons des frères qui évangélisent le samedi. Je les ai vus encore samedi passé. Ils mettent les panneaux, ils ont des panneaux, c'est écrit avec des versets bibliques. Mais je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais je dis tout simplement que, bien-aimé, si on veut faire quelque chose parce qu'on est en colère, oui, il faut qu'il y ait dans une certaine colère de voir que le monde ne connaît pas Dieu, on n'en parle plus. Dans ta colère, tu dis, je vais mettre mon panneau, c'est tout. C'est ça c'est ça la prise de conscience. Tu prends conscience qu'il faut faire quelque chose. Bon, moi, je ne sais pas faire ceci, je peux prier. Mais je laisse pas les choses ainsi. je manifeste un état de souffrance par rapport à l'état de l'Église. Mais c'est ça, je ne sais pas que l'Esprit parle à chacun, mais on ne peut pas rester comme ça, on doit prendre conscience qu'il y a des choses à faire. On doit prendre conscience qu'il y a une prise de conscience à avoir. Ça, c'est ce que je voulais dire en première partie. Nous passons au chapitre 2. Il y avait deux questions, ok.
Première question. Dieu a-t-il permis à Néhémie, Moïse, Joseph d'avoir une place d'honneur car il connaissait leur cœur et savait que malgré les honneurs, la richesse, leur cœur resterait attaché à Dieu?
Non, moi je pense que Moïse, par exemple, n'a pas utilisé ça. Il est écrit, il n'a même pas utilisé la place d'honneur. Il a même quitté ça. C'est au contraire de Néhémie qui, lui, a utilisé le fait qu'il était proche du roi, comme pas Joseph. Joseph était en prison aussi. Donc je pense que, oui, je pense que non. Je pense que Dieu donne des opportunités à tous. Donc c'est pas. Et il espère un bon comportement pour tous. Et certains choisissent d'avoir ce bon comportement et d'autres préfèrent leurs intérêts. Parce que l'erreur, c'est de penser que pour faire quelque chose, il faut être proche du roi, avoir un poste élevé. Non. Nous tous, on a une opportunité. Comme je dis, il y en a qui ont une voix. Il y en a qui ont du temps pour prier. Donc, chacun a quelque chose à mettre pour qu'il y ait le réveil. Donc, je crois que Dieu nous donne à tous les opportunités. Il y en a qui sont beaucoup plus fidèles que d'autres. Voilà.
Peux-tu nous rappeler, chronologiquement parlant, toutes les destructions de Jérusalem et du Temple jusqu'ici et quand se situe Néhémie par rapport à l'époque de Daniel et Zacharie?
Non, ça va faire long de rappeler tout. Il y a eu combien? Il y a eu environ 18 destructions. Donc, on ne va pas les rappeler toutes ici. Surtout qu'il y en a qui ne sont pas dans la Bible, il y en a qui sont venus après. Donc, cependant, je veux dire que la première, la vraie destruction commence avec Nebuchadnezzar. Donc, dans les années 586 environ avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, c'était l'époque de qui? De Jérémie. Voilà, donc Jérémie était prophète à l'époque. Il y avait Ézéchiel qui était prophète à l'époque. Il y avait aussi les Daniel. Donc, on les amène à Babylone. Voilà, donc c'est l'époque de la première destruction, donc la grande catastrophe, c'était celle-là. Donc ça a été détruit. Donc le temple aussi a été détruit. Et c'est ainsi que, comme on a dit, Jérémie avait prophétisé que 70 ans après, Dieu les ramènera. Donc c'est là que Cyrus donc fait le dit pour dire maintenant on peut aller reconstruire. Et qui profite de cet édit de Cyrus? C'est là le groupe, le prince de Juda, Shetsbassar, donc Zorobabel, avec le souverain sacrificateur Josué, fils de Yotsadak. Donc c'est les deux là qui sont la première vague d'aller repeupler Juda, repeupler Jérusalem. Et ils vont là-bas, ils reconstruisent le temple et Esdras, en première, deuxième vague, vient. Et là, nous sommes dans la troisième vague avec Néhémie, 13 ans après Esdras. Pour reconstruire les murailles maintenant. Esdras, non, Zorobabel reconstruit le temple. Esdras remet la spiritualité. Néhémie vient solidifier les murailles. Donc, on reconstruit les murailles de Jérusalem pour que Jérusalem retrouve sa gloire.
Tu as dit que Dieu ne se trompe pas. Comment donc comprendre les versets suivants, 1 Samuel 15, 10 à 11? L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit.
Oui, mais en quoi Dieu s'est trompé là? Dieu ne s'est pas trompé.
Ah, donc, comme Dieu a dit, je me répands d'avoir...
Se repentir, ce n'est pas comme on le prend en français. En français, quand on utilise repentir pour nous les humains, ça veut dire qu'on a fait une faute. Mais quand on utilise se repentir, et ce n'est pas le seul verset où Dieu se repent. Il y a même dans Genèse où il est écrit que voilà, il s'est repenti d'avoir fait. C'est un changement d'état d'esprit. Donc à l'origine, repentance vient d'un mot grec qui veut dire qui est métanoïa, qui veut dire changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que Dieu était dans un état d'esprit positif par rapport à quelqu'un. Et quand il se repent, donc il n'est plus dans ce même état. Il y a changement d'état d'esprit. Donc la repentance, quand il s'agit de Dieu, ce n'est pas dans le sens qu'il a fait une faute, c'est dans le sens qu'il change d'état d'esprit. Donc ce n'est pas comme pour l'homme. Mais comme nous employons un langage humain, quand parfois on parle de Dieu, on utilise le même langage. Voilà. Nous continuons. Chapitre 2.
Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. » Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une autre lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël.
Voilà, donc on peut s'arrêter là. Là, nous voyons la puissance de la prière. Voilà, vraiment, ça nous interpelle. J'en profite pour dire que voilà, nous allons donc décider, comme d'habitude, 5 jours de jeûne et prière d'ici quelques temps pour cette année. Et nous voyons la puissance de la prière. Néhémie ne dit rien au roi. C'est le roi lui-même qui est interpellé par l'Esprit de Dieu parce que Néhémie a prié. Bien-aimé, quand on dit puissance de la prière, souvent certains mystifient la prière. Donc ils pensent que la prière, c'est fermer les yeux, commencer à trembler un tout petit peu. Donc, non, la prière, c'est dire ce que tu penses à Dieu. Tout simplement, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on a du mal à croire que ça soit si simple. C'est pourquoi on ne le fait pas. On ne prie pas parce qu'on croit qu'il faut que ça soit spécial. C'est dire à Dieu les choses. Qu'est-ce qui te dérange? Que veux-tu? Jésus a dit à l'aveugle qui criait, « Jésus, fils de Dieu !» Il a dit à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse ?» Dis, je veux voir. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à dire? Ce qu'on veut. Je nous exhorte à la prière. On a dit cette année, « Va sans peur en priant. » Seule la prière peut nous donner les forces de faire la route avec le Seigneur. Et ça nécessite à comprendre que ce n'est pas compliqué parce que si tu vois la prière comme quelque chose de compliqué, tu ne prieras pas beaucoup. Donc il faut comprendre que c'est dire à Dieu ton souci. Voilà. Et il faut avoir des soucis. Et nous avions dit dans le chapitre premier que si vraiment on est un vrai chrétien et qu'on compare avec les actes des apôtres, on aura des soucis par rapport à notre époque. Donc du coup, on se met en prière d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est le roi qui est touché par l'Esprit Saint pour dire à Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas ? Néhémie dit, ce qui ne va pas, prenez le roi comme étant Dieu en quelque sorte, qu'est-ce qui ne va pas ? Lui aussi dit, voilà ce qui ne va pas. Le roi dit, mais que demandes-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça paraît très simple comme ça, bien-aimé, pourquoi ? Parce que quand on est sincère avec Dieu, les choses vont devenir très simples. Quand on est sincère et simple avec Dieu, les deux. Je ne dis pas qu'on ne sera pas combattu, mais entre nous et lui, on peut être combattu par d'autres personnes, mais entre nous et lui, on aura la sensation que ça coule, parce qu'on s'est simplifié, on s'est humilié. Les choses sont simples. Et Néhémie dit, mais voilà ce que je veux. Je veux que tu m'aides, que tu me donnes des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté, pour que j'aille rebâtir les murailles de la ville de Dieu. Voilà. Et il est écrit au verset 8, « Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Donc Dieu n'est pas absent, Dieu est présent. Mais quelles sont nos intentions ? Quelles sont nos priorités, bien-aimés ? Comme le prophète Agé disait à l'époque, vous, tout ce qui vous intéresse, c'est vos maisons lambrissées. C'est ça qui vous intéresse, alors que l'œuvre de Dieu est en train de pourrir. Donc quelles sont les priorités ? Quand quelqu'un qui est riche comme ça, comme Néhémie, très haute position comme Néhémie, il dit à Dieu, je vais tout laisser pour aller rebâtir les murailles. Vous croyez que Dieu va faire quoi ? Dieu va ouvrir les portes. Il voit que cet homme se soucie de lui, Dieu. Je pense que tout ça doit revenir dans l'église du Seigneur. Donc des gens qui ont souci, comme les Jacques Poulinguer, qui chez les prostituées, donc oncle, les opiomanes, qui apporte la bonne nouvelle ? Personne, j'y vais. Je m'installe là-bas. Donc quand on a souci, Dieu nous ouvre les portes. Même si on peut connaître 2 ans, 3 ans de galère, viendra un temps où tout va couler. Parce que Dieu nous a préparés à cela. Voilà. Et finalement, on lui donne les lettres. Il y a des jaloux, il y a Sambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite. L'ayant pris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous savez, bien-aimés, les enfants d'Israël ont toujours été combattus. La présence, le symbole divin est combattu par les forces des ténèbres sur terre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui fuient la France parce que ils sont, il y a le racisme, ils vivent le racisme. Dernièrement, là, il y a un livreur qui a refusé de livrer parce que c'était des restaurants juifs. Donc, les gens des Deliveroo, les gens avec le sac, avec le vélo, là, donc c'est... Ils sont persécutés. Ils sont parce qu'ils sont le symbole divin. Ils sont un symbole divin. Et Satan va tout faire pour détruire cela. Et Sambalat et Tobija déjà se lèvent contre Néhémie. Oui ?
Peut-on dire que le temple actuel, qui est le corps de Christ, peut avoir des brèches, voire des murailles démolies par le compromis ? Ou bien autre péché, par exemple.
Bien sûr, à haut niveau.
On voit dans le Nouveau Testament baptisé d'eau et d'esprit. Est-ce que nous ne nous sommes pas arrêtés au premier baptême sans vouloir le deuxième, ce qui expliquerait l'état du peuple aujourd'hui ? Le cœur des hommes y est pour beaucoup, mais je me disais que souvent, on s'arrête au premier baptême et on pense que c'est bon, que l'on prend les bonnes directions, sauf que ça peut paraître bon, mais pas dirigé par Dieu.
Bon, je n'ai pas compris la dernière phrase, mais toujours est-il que la puissance du Saint-Esprit, ça vient de Dieu lui-même. Nous, on ne peut pas forcer ça. Nous, on ne peut que souhaiter cela. Donc, il est écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis du Saint-Esprit, dit Paul. » Mais aujourd'hui, il est vrai que... Dieu ne va pas se précipiter à remplir les outres vieille de son esprit. Jésus a dit, pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Donc il y a trop de religiosité, de christianisme mondain dans l'Église pour que Dieu nous remplisse de ton esprit. Donc je crois que cela, la démarche de notre époque, c'est la démarche de Néhémie, c'est la démarche d'Esdras. Revenir d'abord à la vérité, revenir à la parole. Et quand l'autel sera rétabli comme Dieu est en délit, le feu descendra du ciel. On n'a pas forcé. Dieu lui-même a prévu ça. Mais c'est à nous de saisir son message, de revenir d'abord à lui. Si on revient à lui, Dieu va nous inonder de son esprit. Ce n'est pas un problème, ça.
Et par rapport à cette question, moi, je me dis, est-ce qu'un chrétien a encore besoin d'un baptême de Saint-Esprit? Puisque la Bible nous dit, dès lors que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit.
Oui, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Même si, parce qu'il y a... Bon, là, ça va faire encore un autre sujet. On n'est pas dans ce sujet-là. Il y a dans 1 Corinthiens 12, 13, il nous est dit que nous avons été baptisés du même esprit pour former le corps de Christ. Donc, le chrétien, quand il se convertit, il est baptisé de l'esprit, mais pour former le corps du Christ. Mais il peut vivre dans tout le long de sa vie plusieurs baptêmes du Saint-Esprit, plusieurs plongeons. Baptême, ça veut dire plongeons. Plusieurs plongeons dans le Saint-Esprit pour une mission, pour un don spirituel, pour beaucoup de choses. Donc c'est devenu un débat technique, alors que dans la Bible, ce n'est pas un débat technique, c'est quelque chose de simple. Les gens qui étaient dans la chambre haute ne savaient même pas que c'était quoi le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient en train de prier, Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Et ils priaient, et c'est venu. Donc il n'y a pas les gens de l'Indonésie, là où il y a un livre que je vous recommande, comme un souffle violent. Donc, quand il y a eu la manifestation de l'Esprit, comme le jour de Pentecôte, il y a eu des feux en Indonésie. Des feux qui sont venus à tel point que les gens appelaient les pompiers. Donc, ils ont dit, ça brûle chez les chrétiens, mais c'était le feu du Saint-Esprit. Mais ces gens-là, c'était une vieille église traditionnelle protestante. C'était même pas, ils pouvaient même pas penser à ça. Donc, on n'a pas à forcer. En fait, forcer ces choses-là, c'est ça le terreau des faux serviteurs. Donc, ils savent que les chrétiens ont soif de ceci, de cela. Eh bien, ils leur donnent le faux. Donc, nous n'avons pas à forcer ça. Nous devons dire, revenons aux actes des apôtres. Aux actes des apôtres, il y avait ça. Donc, on aura aussi ça.
Que le roi vive éternellement. Cette phrase prononcée par Néhémie n'est-elle pas une façon de le glorifier comme un dieu? Dieu condamnait-il ses dires adressés au roi de l'époque?
Il est écrit, honorer le roi. Donc, craignez Dieu dans 1 Pierre. Et honorer le roi. Donc, et même Paul, quand il était devant les autorités, j'ai oublié soit Festus, soit l'autre, il a honoré, il a dit des termes de déférence. Voilà. Donc, ce n'est pas interdit dans la parole, puisqu'il est écrit que Dieu, c'est lui qui établit les rois, qui établit toutes ces autorités. Donc, quand on est face à eux, qu'on les appelle Votre Excellence, donc les titres honorifiques liés à leur position, ce n'est pas anti-biblique. Paul l'a fait. Et là, Néhémie le fait aussi. Ce n'est pas mauvais. Quand il souhaite qu'il vive éternellement, mais c'est le salut. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait mauvais. Ok, nous continuons. Voilà, verset 11.
Verset 11. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors...
Voilà, on peut s'arrêter là pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il fait Néhémie? il fait une inspection des lieux, mais en secret. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, le plus important, c'est la prière. Ce n'est pas la publicité, ce n'est pas le showbiz, le côté vedette, non. On se trompe. Néhémie, il est investi par le roi lui-même. Mais quand il arrive, il travaille incognito, il fait l'inspection en secret, il ne dit à personne. Il prépare les choses, il voit les choses. Je crois qu'il adopte une stratégie, c'est après qu'il va parler. Dans un premier temps, il fait les choses en secret, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens sont trop rapides pour dire « Dieu m'a oint, je fais un tel rêve, je prêchais dans un stade. » Non, bien-aimé, si tu as fait un rêve que tu prêchais dans un stade, si c'est de Dieu, garde-le dans un premier temps dans ton cœur pendant que tu es dans une bicoque. Donc, garde-le dans ton cœur. Donc, on voit en Afrique une église dans des trucs, dans des tôles, là, c'est évangélisation mondiale. Mais pourquoi Donc, commencez par travailler en secret, prier. Si vraiment Dieu vous a appelé à l'évangélisation mondiale, c'est votre travail qui montrera ça. Ce n'est pas les titres évangélisation mondiale, ministère évangélisation mondiale. Non, bien-aimé, arrêtons de crier. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 42, voilà mon serviteur que j'ai établi, en parlant de Jésus. Il ne criera pas dans les rues, je suis, non. Et dans ce cas de figure-là, la personne qui me fait beaucoup de joie, c'est Marie. Et il est écrit dans Luc chapitre 2 que Marie enregistrait tout ce qu'il voyait, tout ce qu'elle entendait concernant Jésus. Elle a vu les anges lui dire, un ange lui dire, mais c'est le Fils de Dieu. Elle a vu les bergers lui dire, mais on a vu des anges qui nous ont parlé de lui. Elle a vu les mages qui sont venus de loin adorer son Fils. Elle arrive au moment, au temple, au moment de présenter l'enfant. Siméon prophétise, Anne prophétise. Au temple, à l'âge de 12 ans, elle voit un exploit, Jésus enseignait au docteur. Il est écrit, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle n'a pas fait de pub. Parce que si Marie avait fait la pub, le jour où Jésus est sorti à Nazareth, les gens ne seraient pas étonnés. Ils diraient, ah, mais c'est ce que sa maman nous racontait tout le temps. Mais les gens étaient étonnés, ils ont dit, oh, mais ça c'est Jésus, non? On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Aujourd'hui, il est Messie. Un collègue du collège, un copain du collège, tu apprends 15 ans plus tard qu'il est le Messie de la France. Tu dis, oh, Jean-Claude, ben oui. Pourquoi ils sont étonnés? Parce qu'il n'y a pas eu de pub. Aujourd'hui, les chrétiens font plus la pub que des exploits. Beaucoup parler. Néhémie vient avec les titres du roi, mais il ne parle pas beaucoup. Il fait son enquête, il adopte une stratégie. Maintenant, il peut parler. Bien-aimé, n'aie pas honte. Si vraiment Dieu t'a appelé et que tu mets une vidéo sur YouTube, ça n'attire que 15 vues. N'aie pas honte. Si Dieu veut te laisser cacher, il sait pourquoi il te laisse cacher. Ne force pas, bien-aimé, ne forçons pas à nous faire connaître. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. C'est Dieu. Donc, travaillons, c'est ça qui compte. Travaillons. Ne faisons pas de pub. Et c'est ce qui se passe là. Néhémie travaille d'abord, adopte une stratégie et puis nous continuons. Verset 17. Ce qui est important, c'est la prière. Verset 17.
Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été formés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. »
Amen. Voilà des gens qui veulent décourager Néhémie. Néhémie, après avoir fait son enquête, après avoir adopté une stratégie, maintenant il se dévoile auprès de ses frères pour dire, regardez l'état de Jérusalem, essayons de faire quelque chose. Bien-aimé, si Dieu t'a mis à cœur quelque chose, il faut que ça soit d'abord fort en toi-même, construit en toi-même, après tu partages aux autres, voilà ce que j'ai à cœur. Parce que beaucoup partagent des choses, 2 mois après, ils sont sur une autre chose. Non, c'est pas bon, c'est l'instabilité. Donc si tu as une idée, si tu as une pensée, fortifie-toi dans cette pensée, fais un travail avec Dieu en secret et dans la prière. Ainsi, Dieu confirmera ou infirmera. Mais ne nous précipitons pas à partager les choses rapidement, puisque beaucoup nous le voyons le faire rapidement, et 2 mois après, ils ont sur un autre projet. 3 mois après, ils ont déjà changé de projet. Non, édifions-nous dans quelque chose que Dieu nous a inspiré jusqu'à ce que, voilà, on sente que là, il y a le feu vert de partager et de produire la même soif chez les autres. C'est ainsi que les choses avanceront avec le Seigneur. Il est écrit, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie a su communiquer la soif aux autres parce que lui-même avait fait un travail personnel avec Dieu. C'est ça. Quand on a fait le travail personnel avec Dieu, on est convaincu. Là, on peut communiquer vraiment la soif aux autres. Mais certains, au lieu de faire ce travail-là, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les autres les soutiennent. Et du coup, quand on ne les soutient pas, ça devient des murmures. Ça devient des accusations. Juger les autres? Non, bien-aimé. Si vraiment tu as reçu quelque chose, fortifie-toi d'abord dans la chose avec Dieu. Et quand tu partages, ce n'est pas pour qu'on te soutienne, c'est pour qu'ensemble on travaille. C'est ça. Et beaucoup, dès qu'ils voient qu'ils ne sont pas soutenus, ben ils laissent. Donc, ils n'ont pas fait le travail personnel avec Dieu. Ils laissent. Ils disent, c'est la faute des autres. Je n'ai pas été soutenu. On ne m'a pas aidé. Non. Si vraiment ça venait de Dieu, Dieu est avec toi, tu devrais attendre seulement que les autres travaillent avec toi. Et non pas qu'ils te soutiennent, toi, comme si sans leur soutien, tu ne peux rien faire. Il peut y avoir des vagues comme ça, une première vague de gens qui ne te soutiennent pas bien, mais il va y avoir une deuxième vague suscitée par Dieu qui va te soutenir. Donc, c'est pourquoi il faut être ferme soi-même dans ce qu'on a reçu de Dieu comme vision, comme projet. Et finalement, Néhémie étant fort dans cela, ben, il a pu convaincre les autres, levons-nous et bâtissons. Mais toujours les jaloux, les opposants de Dieu, Sambalat, Horonite, Tobija, il est écrit, il y avait aussi Geshem l'arabe, et tous ces gens-là se moquèrent et méprisèrent cette idée. Il dit, vous vous révoltez contre le roi. Vous savez, le chrétien dans le monde entier sera toujours accusé de se révolter contre les autorités. Pourquoi le problème du chrétien est le suivant. Le chrétien a déjà un roi. Maintenant, il se retrouve à avoir physiquement, là où il habite, un autre roi encore. Et souvent, il y a guerre entre les deux. Mais le grand roi dit qu'il faut qu'on se soumette aux autorités. Mais au moment où il y a conflit de position entre les deux, le chrétien va suivre le grand roi. Et ce qui fait que, comme en général les rois du monde sont influencés par le diable et ils ont une autorité qui vient même de Dieu, le diable va les utiliser pour freiner les chrétiens. Et après, il y a des rois d'exception, il y a des moments d'exception comme là avec Artaxerce qui aide comme avec Cyrus. Donc il y a des moments d'exception, mais en général, les rois, les chefs de ce monde seront utilisés pour freiner les chrétiens. Et donc les chrétiens souvent sont accusés de ne pas de se révolter. On a l'exemple qu'on va, après Néhémie, ça va être ce livre-là, ça va être le livre d'Esther. Qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Esther? C'est que tout le monde se prosterne devant Aman, le premier ministre, sauf une personne. Mardoché le juif. Pour la simple raison qu'il a déjà un dieu. Pour lui, se prosterner, on ne le fait que devant Dieu. Donc, c'est souvent ça le problème. On peut se retrouver dans un endroit où tout le monde court après un président de la République, court après un ministre, et vous, vous êtes tranquille en tant que chrétien, vous lui dites bonjour, votre excellence, et ça s'arrête là, et voilà. On va vous traiter de quoi? Ils sont fiers. Non, on n'est pas fiers. On a un autre Dieu. Le problème, l'incompréhension que suscitent les chrétiens, c'est ça. C'est que eux, ils ont un autre Dieu déjà. Le Dieu vivant et le Dieu tout-puissant. Maintenant, comme dans ce monde, les stars de cinéma, les ministres, les présidents sont pris comme des dieux, et certains pasteurs aussi, hein, comme des dieux. Alors, les vrais chrétiens, dans ces milieux-là, ils passent pour être orgueilleux, fiers, se révolter contre les autorités. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a déjà un autre roi. Daniel a connu ce problème. Regardez, tous les serviteurs de Dieu connaissent ce problème-là. À cause du fait qu'ils ont déjà un autre roi. Un autre roi. Et ça, j'ai eu à donner cette réponse-là à quelqu'un. J'ai dit, il faut dire à votre type que je me suis retrouvé dans une configuration où quelqu'un était très élevé, les gens l'adoraient, mais moi, je dis non, ce n'est pas qu'on est fier. Nous, on a déjà un autre roi. Ce qui fait qu'on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre. Voilà. Et que ça n'arrivera pas. Et je disais à la personne, et on n'est pas les premiers. On a des frères qui ont connu ça. Il y a Daniel. Je lui ai cité. Les amis de Daniel. Donc, tous ces gens-là. Il y a Élisée qui ne s'est pas prosterné devant le général syrien. Donc, tout simplement parce qu'on a déjà un autre roi. On ne peut pas en avoir deux. Le deuxième qu'on a sur terre, nous l'obéissons parce que le premier a dit qu'on l'obéisse. Ce n'est pas qu'il a pris la place du premier. Donc c'est tout ça, tout ce à quoi nous devons nous attendre, parce que bien aimé, c'est ça. Il ne faut pas qu'on ait une position où, avec certains chrétiens, on ne sait pas s'ils sont au service de l'État ou au service de Dieu. Nous devons d'abord être au service de Dieu. Et en étant au service de Dieu, être au service de l'État. Mais s'il commence à y avoir un flou, on ne sait plus, tu sers Dieu ou tu sers l'État. C'est ça, bien aimé, il faut... Comme à une certaine époque, on nous disait, ah mais il ne faut pas évangéliser dans les rues. Il faut demander la permission. Et d'ailleurs, l'État va refuser. Moi, je dis non, mais il faut savoir qui est-ce qu'on sert. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Maintenant, nous, on va évangéliser. Mais si l'État n'est pas d'accord, il va nous arrêter, c'est tout. Donc, on ne peut pas, à un moment donné, il faut que ça soit clair que qui nous servons d'abord. Nous servons d'abord Dieu. Il faut que ça soit clair. Quand ça commence à devenir flou, c'est qu'on est en train, on ne supporte pas la phrase du genre Sambala le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite, Geshem l'Arabe, qui disent, que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi. Et ça fait peur. Ah, on va nous accuser de sédition. On va nous accuser de rébellion. Vous savez, bien aimé, si les chrétiens chinois devaient suivre le parti communiste chinois, il n'y aurait pas de christianisme en Chine. Il n'y aurait pas. Donc, à un moment donné, il faut que ce soit clair. Je sers qui? Le parti communiste ou bien Jésus? Donc, c'est ce qui se passe là. Et souvent, on fera peur aux gens en disant, mais là, ce que vous faites là, c'est une révolte contre le roi. Oh, non, en réalité, ceux qui obéissent le plus au roi, véritablement, c'est les chrétiens. Les chrétiens véritables, c'est eux les bons citoyens. Parce qu'ils obéissent vraiment aux règles liées à l'ordre. Mais lorsqu'on leur donne un ordre qui est comme une sorte de contre-ordre de Dieu, ah ben là, c'est là qu'on voit que on les traite de rebelles, mais non parce qu'ils ont déjà un autre roi. C'est cela. Nous continuons. Construction de la muraille, chapitre 3.
Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte, la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. À côté d'Éliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zaccur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jehoiada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparaient la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaïa, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Hattush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Hashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils d'Alachesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Ben-Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Shalun, fils de Kol-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Bethsur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui, travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui, travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion de plus l'angle, jusqu'à la porte de la maison d'Eliakib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion, depuis la porte de la maison d'Eliakib, jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliakib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Parioche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des hôtes à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shamaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis.
Amen. Qu'est-ce qui est important dans le travail de Dieu? C'est ce qu'on a lu précédemment à deux reprises, la bonne main de Dieu. Esdras a dit la même chose et Néhémie dit la même chose. Je pense que c'est ça qui fait penser à nos prédécesseurs que ça a été écrit par la même personne parce qu'il y a cette expression claire et nette, la bonne main de son Dieu. L'aide de Dieu, c'est ça qui est important. Vous savez, quand Salomon a fait les constructions, c'était pas d'une manière, comment dire, quand on lit là, on sent du bricolage. Chacun construit une partie, chacun construit une partie. Mais les Salomon, quand ils ont fait, c'était des ouvriers payés, organisés. C'était industriel. C'était une usine quand Salomon a construit. Mais bien aimé, nous apprenons que ce qui est important, c'est la foi, la bonne volonté de servir Dieu. On arrive au même résultat, même si ça ne va pas être aussi brillant que la muraille de Salomon, mais c'est fait. Il y a une muraille qui est en train de se reconstruire avec les moyens du bord. Chacun prend une partie. Ça nous enseigne quoi? Ce qui compte, c'est la volonté et l'action de Dieu. Si on a la volonté de servir Dieu, Dieu, avec les faibles moyens que nous pouvons avoir, peut faire quelque chose. Donc on a vu ça avec l'histoire de 5 pains et 2 poissons. Ce qui a compté là, c'était cette conscience de cet enfant de livrer ces 5 pains et 2 poissons qui paraissaient inutiles, mais il a voulu contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui. Donc il ne faut pas chercher à devenir millionnaire pour servir le Seigneur. Donc avec le peu qu'on a, chacun peut faire quelque chose, de sorte que le travail avance, la bonne main de Dieu, c'est ça qui tranche, c'est ça qui fait la différence. Donc quand il y a la bonne main de Dieu, le peu que chacun peut apporter va faire la différence. C'est ce que ces gens-là ont compris. Vous savez, il y a bénédiction et bénédiction. Parce que la bénédiction, ça peut être aussi le fait que, comme Dieu a donné à Salomon beaucoup, beaucoup de richesses, il a pu donc engager des ouvriers qui ont travaillé, mais pour l'argent. Mais là, Dieu ne donne pas à Néhémie beaucoup, beaucoup de richesses, mais il le bénit par le fait qu'il arrive à convaincre les gens de travailler eux-mêmes. Ça reste une bénédiction. Mais qu'est-ce qui est plus fort? D'avoir l'Esprit de Dieu qui touche les gens et qui travaille eux-mêmes, ou d'avoir beaucoup d'argent et travailler seul? Personnellement, j'aime les gens. Je préfère voir les gens servir Dieu. Ça me fait du bien de voir les gens aimer Dieu et le servir que avoir beaucoup de moyens moi seul et moi seul travailler. Non. Je préfère voir la gloire de Dieu toucher les cœurs. Ensemble, on travaille plutôt que toi tout seul, tu reçois des grands moyens et on finira par te suivre comme qui ? Comme un Dieu. On finira. Je préfère que la grâce se répande sur tous. On se lève, on travaille. Là, il n'y a pas de Dieu. Mais quand la grâce est sur une seule personne, finalement, les autres sont comme des clients. C'est pas bon. On a vu comment ça, les dégâts que ça a fait chez Salomon. Mais là, la grâce se répand sur tout le monde. Tout le monde prend conscience et travaille. Et quand on demande ça aux bien-aimés, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'investir, ils ne veulent pas entrer. Et maintenant, quand ils vont voir que, ah oui, mais les gens suivent tel, mais suivent tel parce que toi, tu n'as pas voulu te lever. Mais si tout le monde se levait, ça diminuerait l'idolâtrie des gens. C'est ça qui se passe là. Donc, tout le monde travaille avec les moyens du bord. Ça ne rend personne très, très, très importante. Mais quand, bon, beaucoup sont là comme des consommateurs, ça fait que, ben, voilà. Le peu qui vont travailler vont paraître fort, grand, tout ça. C'est pas bon. Levons-nous, bien-aimés. Et là, moi, je trouve ça agréable que l'Esprit touche beaucoup de gens en même temps. Ça, c'est une démonstration. Je ne dis pas que quand Dieu donne des moyens à un, c'est pas non plus l'Esprit, c'est l'Esprit. Mais, personnellement, mon choix serait que beaucoup soient touchés en même temps. Ça diminue l'homme, ça élève Dieu seul, quoi. C'est ça qui est beau. Et bien aimé, écoutons l'appel du Seigneur. Ces gens-là ont écouté l'appel du Seigneur. Ils n'ont pas fait ça pour Néhémie. Ils ont compris que c'était Jérusalem, c'était le symbole de la présence divine. Donc il fallait qu'ils fassent quelque chose pour rebâtir les murailles. C'est très important. Voilà. Donc depuis un moment, on oublie de prier entre les interventions. Donc aujourd'hui, on s'arrête là pour pouvoir. Priez, à moins qu'il y ait des questions.
Il y a une question. Si une autorité prononce des mauvaises paroles contre nous, entre parenthèses, malédiction ou autre, parce qu'on refuse d'obéir à un ordre contraire à la parole de Dieu, est-ce que ces paroles auront un impact spirituel dans la vie du chrétien contre qui sont prononcées ces paroles ?
Pas du tout. La malédiction sans cause n'a point d'effet, dit la parole de Dieu. Voilà. Donc nous... Entre Dieu et les hommes, nous obéissons à Dieu d'abord. Et voilà. Donc, nous allons prier que le Seigneur nous... qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience, par exemple, pour nous, aujourd'hui, nous devons prendre conscience que nous devons gagner la France pour le Seigneur. Voilà. C'est important. Là, tout à l'heure, l'après-midi, j'étais parti acheter une carte de la France. Parce que voilà, il y a cette soif-là de se dire, ben, la France doit être gagnée pour le Seigneur. Et on va organiser des prières par rapport à cela. Donc, voilà, c'est que Dieu nous fasse prendre conscience que même si on est maçon, on est utile pour son œuvre. Donc, et Néhémie était échanson du roi. C'est lui qui le versait du vin. Voilà, donc et voilà tout ce que Dieu accomplit à travers Néhémie. Donc que Dieu nous fasse comprendre que chacun d'entre nous a son importance dans l'œuvre de Dieu et qu'il doit se lever pour cela. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous parles à chacun pour nous faire comprendre, Seigneur, que ton Église est en difficulté, le monde surtout est en difficulté, parce qu'au moins ton Église, tu en es le chef, Seigneur. Mais le monde, quand on voit les gens... Ils n'entendent pas parler de Dieu, Seigneur. Ils n'entendent pas. Il y a personne. Il y a les chrétiens qui bâtissent leur ministère, leurs églises, au lieu d'être le sel de la terre. Seigneur, nous prions que ces choses changent. Nous voulons que tu nous ramènes, Seigneur, que tu nous ramènes aux actes des apôtres où nous allons être consacrés à toi et le Saint-Esprit viendra... enflammer tout ça par la puissance, par sa puissance, afin que ça produise le réveil, Seigneur, notamment dans ce pays, Seigneur. Merci, Seigneur, de parler à chacun qui suit cette étude biblique, à se comporter comme Néhémie, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Nous allons prier également pour que nous soyons prêts à résister aux oppositions, dans la paix et dans la foi. Vous savez, Néhémie, quand on les a attaqués, il a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc si les gens nous embêtent par rapport à l'œuvre de Dieu pour dire « Ah oui, on vous avait échoué autrefois, vous avez... c'est le Dieu des cieux qui va faire le travail, ce n'est pas nous. » Donc on ait cette conscience que ce n'est pas nous, c'est Dieu en nous qui travaille. Seigneur, nous venons prier aussi que tu nous aides à ne pas nous laisser avoir par les échecs du passé, à ne pas nous laisser retarder par les oppositions des humains qui nous traitent d'extrémistes ou bien de rebelles vis-à-vis de l'œcuménisme ou des mouvements actuels, Seigneur, qui nous traitent d'orgueilleux parfois pour nous intimider. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides à regarder à toi, à nous laisser utiliser par toi par rapport aux objectifs que tu as. Nous nous attendons à toi, Papa. Dans le nom de Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi que nous puissions nous appuyer sur toi et sur toi seul. Merci, Seigneur. Alléluia.